pour moi, être artiste, c'est être complètement cohérent avec la personne que je suis et ce que dont j'ai toujours rêvé depuis que j'étais petite, en fait.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? L'artiste plasticienne avec qui je dialogue aujourd'hui est avant tout performeuse. Romina De Novellis est italienne, née à Naples, mais elle vit à Paris. Elle travaille sur le concept du corps installé dans l'espace public et particulièrement de la représentation des figures féminines. Elle met son propre corps au premier plan afin d'interroger le spectateur sur le statut de l'enfermement physique, social, politique, culturel et spirituel. Femmes, saintes, filles, icônes de la vie quotidienne sont les protagonistes du travail de Romina De Novellis et viennent de l'anthropologie et de l'ethnomusicologie pour nous interroger sur l'impact de la société sur nos personnes. Au-delà d'une réflexion féministe, c'est l'universalité du corps souffrant qu'elle nous présente, des efforts incessants pour se libérer et de l'impossibilité inéluctable d'y parvenir. La question de la transmission et de la mémoire des gestes familiaux, ainsi que les moyens de s'extraire d'un passé, sont au cœur de son travail. On peut y déchiffrer une dimension critique, une évocation de l'enfermement, de la travailleuse, de la condition humaine universelle, mais également une très forte empathie de la part de l'artiste qui, par ses gestes, endosse nos obligations à supporter nos poids quotidiens. Donc nous sommes dans ton atelier, mais ça n'est pas un atelier classique d'artiste. C'est un lieu qui est plus hybride et qui est plus à ton image. Donc, de quoi s'agit-il?
Alors, ce lieu que j'ai depuis 2 ans, c'est un lieu dont je rêvais. Je ne m'occupe pas que de la production artistique ou de la création, mais j'ai envie de dire que mon travail d'artiste est complètement lié à l'aspect pédagogique aussi et à la recherche intellectuelle. J'ai fondé cet endroit, que c'est une association qui travaille du coup à la fois sur l'accompagnement aux personnes vulnérables. Personnellement, je travaille avec les enfants autistes gravement, mais comme on est dans le 10e arrondissement, on travaille énormément aussi sur les communautés locales, les migrants, les réfugiés, les personnes victimes des attentats de Paris, les femmes, voilà. Donc j'ai fondé cette association à l'intérieur de laquelle il y a mon atelier aussi. Et je travaille dans ce cadre aussi avec des thérapeutes sur la question du soin, de l'accompagnement et pas la cure comme à l'hôpital, on va dire. Hein. Donc on est vraiment axé sur le social. Et donc mon corps, il s'inscrit dans son quotidien, dans un contexte comme ça. Et donc je ne suis jamais toute seule, à différence d'autres ateliers d'artistes.
Et est-ce que tu dirais que ton engagement artistique vient de ton milieu social? Est-ce que ta famille t'a aidé, t'a permis de devenir artiste, ou est-ce que c'est par des cheminements différents?
J'ai envie de dire que c'est malheureusement grâce à ma famille si je suis artiste, parce que j'ai commencé à me penser, à me projeter dans ce corps, justement en me rébellant, donc comme révolte à cette éducation reçue. Je suis napolitaine de naissance et de culture. Napolitaine, c'est une vraie culture pour le coup, celle du sud et celle de la ville de Naples en plus, même si j'ai grandi toute ma vie à Rome. Donc j'ai cette double culture dans mon, dans mon éducation reçue, à la fois scolaire et à la fois familiale. Et celle familiale, ça a été la plus envahissante, j'ai envie de dire, et la plus lourde aussi à comprendre, à accepter une famille catholique où le patriarcat était une valeur absolue, un père militaire, une mère femme au foyer, donc une famille nombreuse. Donc c'était pour moi le besoin d'être artiste et d'être artiste femme qui travaille sur son corps, c'était complètement une forme de révolte à toutes ces valeurs-là.
Donc est-ce que tu te souviens d'un moment précis dans ta vie où tu t'es dit, voilà, je m'éloigne de ma famille parce que je veux vraiment être artiste?
Oui. Alors, le moment est arrivé tôt. Déjà, quand j'allais, j'étais encore à l'école élémentaire, c'est-à-dire j'en pouvais déjà plus de tout ça. Donc, déjà à l'âge de mes premières règles, j'ai envie de dire. Donc, c'est là que vraiment j'ai compris que ma place de femme ne pouvait pas être là-dedans. Dans cette culture-là, dans cette éducation-là. Et donc, c'est voilà, à l'âge très jeune, entre 10 et 11 ans, comme ça, que j'ai compris qu'il fallait que je parte de cette... que je m'émancipe. Émancipe ?
Oui, c'est ça.
émancipation, oui, mais émancipe, j'avais jamais dit. De cette éducation reçue, mais aussi de la famille même, de cette sorte de cage qui est... m'obliger à vivre dans ce rôle imposé de jeune fille, du coup, que je devenais, que je découvrais d'être. Et c'est là que les questions se sont posées vraiment aussi sur les langages, probablement, de l'art. Et quel langage, dans quel langage m'inscrire, en fait.
Mmh. Et le langage que tu as trouvé pour t'exprimer, il est passé aussi par une autre langue, parce que tu es venue à Paris et tu as appris le français parce que ça t'intéressait de changer de culture, parce que tu pensais qu'à Paris, il y avait plus d'ouverture. Et donc, il a fallu apprendre cette langue pour ensuite développer ton propre langage qui est plus de l'ordre corporel ou en tout cas visuel.
Alors, disons que tout d'abord, avant de venir à Paris, j'ai vécu une deuxième étape importante, traumatique dans ma vie. Une chute avec mon scooter à Rome qui est tombée à l'intérieur d'un trou qui s'est provoqué dans l'asphalte. Donc, j'étais engloutie par l'asphalte. Je me suis vraiment envolée vers le bas, vers les enfers. Je dis toujours ça parce que ça a été vraiment être absorbée vers le bas. Cette chute qui m'a pas mal blessée, c'était en 2004, donc j'étais une jeune danseuse. À cette époque-là, j'avais toute ma vie devant moi pour développer une carrière de danseuse. Ça m'a fait comprendre que pas seulement je devais quitter ce pays où il y avait que des choses pas justes, y compris cet accident auquel j'ai perdu contre la mairie de Rome, d'ailleurs, face au tribunal. Et aussi de cette culture qui s'impose notamment sur les femmes, sur le corps des femmes. Donc j'ai choisi la France. J'ai choisi la France pour des questions aussi de valeurs politiques, de valeurs sociales. Cette force que la France a d'accompagner les personnes vulnérables, la santé publique, les écoles publiques, l'éducation, les musées, l'art... Donc cette capacité aussi, cette sensibilité aussi de reconnaître mon travail d'artiste, ce qui n'est pas le cas en Italie. Donc j'avais besoin de quitter cette culture patriarcale, de changer de langue pour pouvoir dénoncer cette culture patriarcale, que je n'arrivais pas à le faire en italien, tout simplement parce que j'étais sûre d'être comprise par mes parents. Mmh. Et donc je me suis en quelque sorte libérée à travers le français mais censurée en italien. Et j'ai choisi la France parce que je me sentais accompagnée. L'État a remplacé la vulnérabilité d'une femme seule en arrivant à Paris qui en Italie est assurée par une famille, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. La famille en quelque sorte remplace la figure de l'État ici. Donc j'ai pu... profiter du soutien en tant qu'Européenne, les premiers mois, les premières années, la CAF, voilà, l'université publique, tout ce qu'on a droit ici, en tant qu'Européenne. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs ce pays et cette langue.
Mmh. Et quand tu racontais ton accident de scooter, ça m'évoquait aussi une autre femme artiste qui est Frida Kahlo,
oui,
qui elle aussi a eu un accident, mais qui elle aussi se trouve à la frontière entre deux pays, mmh, entre deux cultures. Et donc je trouvais qu'il y avait un lien particulier entre ce qu'elle fait avec la culture mexicaine et toi ce que tu fais avec la culture italienne.
Oui, oui, oui. Et c'est pas la première fois que cette comparaison arrive avec trois femmes artistes, des grandes femmes artistes. Mmh. Pour l'histoire biographique, après, ouais, je suis jeune et encore, je ne suis pas une grande artiste, mais par rapport à leur histoire, à leur rébellion aussi, je pense...
Et la relation au corps aussi.
Oui, et la relation au corps, donc oui, Frida Kahlo, parce que pas seulement c'est une femme dans une culture latine, mais en plus handicapée. Donc pour moi, cet accident a été un vrai handicap, et surtout le regard des autres sur mon corps a été un handicap, c'est ça qui m'a beaucoup blessée. Mais cette blessure-là du regard des autres, je l'avais déjà en tant que femme. Mmh. C'était pas nouveau. Mais une femme avec un handicap, c'était quelque chose d'encore supplémentaire, qui rajoutait une couche à l'embarras que la société impose à nous, les femmes. Donc oui, Frida Kahlo, mais aussi le père militaire, Marina Abramović. Donc cette culture aussi dell'ordre en quelque sorte et dell'organisation du temps. Ce rituel qui sort souvent dans mon travail est aussi une rébellion à cet ordre-là. Mm. Et puis Niki de Saint-Phalle, cette révolte
contre
la famille. Mm. Beaucoup plus bourgeoise que la mienne, la sienne. La mienne, ce n'est pas une famille cultivée, ce n'est pas une famille qui a pu m'inspirer, qui a pu me transmettre ce savoir et cette curiosité d'aller au-delà de la vie et ce qui permet de faire la culture, justement la connaissance. Donc ces trois artistes-là, aussi par leurs œuvres aussi fortes, la couleur, chez Niki de Saint-Phalle et chez Frida Kahlo, moi, je ose avec mon art. C'est très coloré. Il y a beaucoup d'imaginaire méditerranéen, donc de couleurs. Et ça, on ne le voit pas beaucoup dans les performances, même de la même Marina Abramović, d'ailleurs, qu'elles sont beaucoup plus austères, plus, j'ai dit froide, ça ne veut rien dire, mais cette forme plus... plus formelle, on va dire, par rapport à un travail comme Niki de Saint-Phalle ou Frida Kahlo, qui salisse aussi l'esthétique en quelque sorte.
Et cet accident de scooter t'a permis aussi d'oser, comme tu viens de le dire, oser justement démarrer la performance avec ton corps et la nudité de ce corps, et un corps qui avait été abîmé par l'accident.
Oui.
Ça, c'est le point de départ de ton travail de plasticienne et de performeuse.
Oui, c'est-à-dire qu'après cette expérience de l'accident, tout en considérant que cet accident arrivait au moment où j'étais très révoltée contre ma famille, je ne parlais plus à ma famille. Donc il y avait déjà ce deuil-là, l'abandon que je provoquais et l'envie d'émancipation et de liberté. Le trou a arrêté cette course vers la liberté. Et pendant un an, j'ai dû réapprendre à marcher. Donc ça a ralenti cette envie de courir, cet accident. Mais dans ma tête, la course a continué. Et donc je me suis en quelque sorte réveillée après cette expérience d'un confinement médical, du coup, parce que j'étais dans un hôpital pendant très longtemps, et je me suis rééduquée, et ben je me suis réveillée performeuse, avec des cicatrices, mais performeuse. Donc j'ai quitté la danse, j'ai abandonné le théâtre, qui marchait très bien d'ailleurs, je travaillais déjà très bien, et je me suis mise dans une vulnérabilité totale, financièrement, mais aussi... d'un point de vue de la création, parce que je repartais des zéros.
Et la question de l'intime, on vient d'en parler déjà avec les grandes artistes que tu as citées, mais on peut dire que quantité d'artistes au cours du XXe siècle, des artistes femmes, ont abordé cette question de l'intime, de vraiment comment exprimer le soi le plus profond. Comment toi tu le perçois et comment, qu'est-ce que tu en as fait toi dans ton travail ?
Tout mon travail touche l'intimité. Tout d'abord parce que j'expose mon corps, c'est une mise à nu, mais c'est aussi imposer mon corps tel qu'il est, comme une femme italienne l'imagine. Je suis un cliché de la femme, un produit de cette culture machiste qui imagine une femme comme celle-là, méditerranée, comme moi.
C'est vrai que quand on te voit la première fois, on évoque tout de suite une madone italienne.
Oui, ou alors le cinéma italien, la fameuse diva, voilà. Le personnage d'une diva, oui. Voilà, du cinéma italien.
Tous ces mythes.
Oui, mais c'est des mythes construits par un regard machiste. Et c'est pourquoi je m'impose dans cette corporité, dans cette physicité, dans cette esthétique aussi qui m'appartient parce que je suis faite comme ça. Pour arriver à faire ça, j'ai dû aller au-delà de la honte, du préjugé, du regard des hommes. Donc la plus grande forme de liberté et le courage que pour moi ça représente mon corps, c'est justement l'exposer de cette façon-là, arriver à l'exposer de cette façon-là et jouer sur ça. C'est un discours que probablement dans les cultures queer ou gender, etc., aujourd'hui on comprend probablement même beaucoup plus fort que chez les féminismes historiques. Mmh. Voilà, donc de cette liberté d'aller au-delà du cliché et s'imposer tout en étant un cliché en soi, mais comme forme de rébellion à ce cliché même. Donc l'utiliser, ces clichés-là, ne pas le mortifier. Je ne me suis dans mes performances jamais mortifiée par la femme que je suis. Au contraire, mais sans me considérer une sainte. Ni une madone.
mais tu es quand même allée jusqu'au bout de cette réflexion, puisque tu es allée jusqu'à être mère, et c'était un vrai désir de ta part. Mmh. Et cette maternité, tu l'as mise aussi au service de ton travail et dans ton œuvre, puisqu'il y a des performances où on te voit enceinte, où on te voit avec ton bébé. Et voilà, c'est au cœur aussi de ta réflexion.
Oui, la maternité pour moi ça a été un vrai désir, un vrai besoin tout d'abord de reconstruire cette idée de famille dans laquelle j'ai grandi, sans considérer que la famille soit une valeur absolue et sans considérer que être mère soit une exigence absolue pour la femme, et d'ailleurs pour moi ce ne l'était pas, ce ne l'est toujours pas. Mais j'avais besoin de revivre l'expérience du foyer, comme pour moi ça a été une expérience traumatique, celle du foyer, et de laquelle je me suis vraiment éloignée. Donc j'avais besoin de reconstruire cette... La maternité pour moi c'était une renaissance, en quelque sorte, en tant que femme libre. Donc ça a été un vrai choix. J'ai une fille et je me suis arrêtée là, même si j'aurais eu un garçon. Mais j'ai une fille, ce qui me rendait encore plus sûre de ce choix, en quelque sorte, parce que j'ai donné la possibilité à une autre fille de vivre dans un autre contexte familial que le mien. Parce que dans mon contexte familial, être femme, c'était déjà un péché. C'était déjà quelque chose de moins, pas quelque chose de plus. Voilà, c'était déjà un défaut de départ. Donc le fait d'avoir une fille pour moi c'est considéré d'avoir enfin quelque chose de plus, et donc pour moi la maternité qui s'est arrêtée à la première fille que j'ai eue, pas à la première tentative mais à la première grossesse réussie, et j'ai considéré que je n'avais plus envie de me reproduire et donc de considérer la fratrie comme une valeur encore plus absolue que la famille que déjà j'avais recréée, donc, donc voilà, je me suis arrêtée là.
Alors pour rester justement sur le thème de la famille, ton compagnon est également artiste.
Oui.
Mauro, il est peintre, oui. Il a son travail à côté, mais il a aussi un engagement auprès de ton travail à toi.
Oui, alors ce n'est pas facile d'être une famille d'artistes, bien sûr. Ça doit être encore moins facile pour notre fille, d'ailleurs, d'être avec deux parents artistes. À la fois par la précarité dans laquelle nous vivons, comme tous les artistes, surtout en ce moment, et à la fois parce que justement on est des personnes complètement tout le temps inspirées et occupées par l'inspiration qui arrive à tout moment et on ne peut pas la gérer. Ceci dit, j'ai rencontré un homme dans ma vie qui est complètement à l'opposé des hommes auxquels j'avais l'habitude. Donc un homme qui n'a pas cette attitude machiste, patriarcale surtout pas, qui n'a pas construit avec moi une famille de ce genre-là. Donc même la définition des familles, elle est assez ample dans notre contexte à nous. Ça change, c'est une autre, on lui a donné une autre acception, j'ai envie de dire, au mot famille. Et donc je pouvais le faire qu'avec un homme qui en plus a un regard sur mon travail. Et ça a été mon désir, ça, vu la sensibilité de Mauro, j'avais envie qu'il soit lui le photographe de mes performances, pas pour avoir le regard d'un homme sur mon travail, mais pour avoir un regard intime sur mon travail, d'une intimité sincère. Et donc c'est lui qui photographie mon travail à chaque fois.
Mm-hmm. Et donc il y a une relation de confiance à la fois dans votre couple et à la fois dans l'association artistique que vous avez. Et donc sur cette relation de confiance, j'aimerais revenir parce qu'on dit souvent qu'il y a eu une prise de conscience que finalement il y a beaucoup de femmes qui sont devenues artistes et qui maintenant prennent une certaine ampleur, qu'on voit de plus en plus d'artistes femmes exposées à droite et à gauche. Donc on peut parler d'une sorte de prise de confiance aussi. Mais finalement, est-ce que la question, c'est pas tout simplement pourquoi se poser encore la question de savoir si la réception d'une œuvre, elle est liée au genre de la personne qui la crée? C'est-à-dire, est-ce que ça importe de savoir que l'œuvre est faite par un homme ou par une femme?
Oui, justement, je pense que la réponse, elle est là. Donc, la question de l'identité sexuelle, de l'identité de genre derrière une œuvre, elle est complètement décalée par rapport à l'œuvre en soi, parce que l'œuvre, d'ailleurs, parfois réveille aussi l'inconscient, et dans cet inconscient-là, on n'est pas forcément lié à un genre précis. Donc, je vais dire, c'est quelque chose qui qui continue à être un retard de cette société machiste et patriarcale et qui considère que la femme soit quand même quelque chose de rare, la femme artiste, la femme intellectuelle, qui reste encore quelque chose de rare. Donc on a besoin absolument de reconnaître la sexualité qui se cache derrière l'œuvre. Moi, je ne suis pas sûre que toutes les femmes se sentent aujourd'hui plus mature, parce que c'est une histoire de maturité personnelle, non? La rébellion à la société qui impose ce regard-là, ou en tout cas émancipée de cette société patriarcale. Ça dépend aussi de la culture à laquelle on fait référence. Donc c'est clair que les pays du Nord ont une approche et donc des solutions différentes de celles qu'on retrouve en Afrique, en Inde, en Amérique latine ou dans l'Europe du Sud. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une conscience globale de la femme, mais c'est clair qu'on continue ce combat. Dans l'idéal, ce serait d'arrêter, de pouvoir vivre dans une société où il faudra plus combattre pour ces raisons-là.
Et justement, si on revient à tes débuts dans l'art, donc quand tu es arrivé en France notamment, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été aidé dans ton démarrage? Est-ce que tu as eu des gens qui ont compté particulièrement pour toi et qui t'ont permis de développer des activités que tu n'aurais pas forcément imaginées?
Alors, j'ai plein de gens qui me soutiennent, entre ma galeriste, les collectionneurs, des commissaires d'expo, des critiques d'art. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en arrivant en France, la chose qui m'a aidée le plus, c'était la France même, son fonctionnement. cet accompagnement aux personnes vulnérables. J'étais vraiment très vulnérable quand je suis arrivée à Paris. Je faisais des petits bureaux, je parlais pas la langue, donc c'était pas facile là d'avoir voilà tout, même tout simplement un appartement. Ça c'est galère pour tout le monde, mais voilà, quand t'as pas un garant, t'as pas tout ce qu'il faut mettre en place ici pour avoir une vie même pénible, même pas normale, voilà. Mais dans toutes ces difficultés, il y avait quand même un soutien social. Je suis très impressionnée par la capacité des Français de ne jamais se contenter. Et je suis très admirative par le combat que vous menez tout le temps, malgré tout ce qu'on a ici, malgré le confort de cette vie. Parce que ça suffit de traverser la frontière après Nice et on n'a droit à rien par rapport à tout ce qu'on a droit ici, notamment en ce moment de Covid, de pandémie, on n'a droit à rien. Donc la France m'a beaucoup aidée, ma vulnérabilité, ma précarité a été soutenue par tout simplement des droits, voilà, en tant qu'Européenne, et j'ai profité de ces aides-là pour m'émanciper et être la femme que je suis aujourd'hui, qui ne se limite pas à être artiste, mais aussi entrepreneuse, entre guillemets, culturelle et sociale. Donc voilà, où je mène des projets culturels et sociaux sur le 10e arrondissement et pas que. Donc, et si je n'avais pas cet accompagnement-là, ça aurait été plus difficile. Après, le monde de l'art reste un monde très difficile. Et je considère que mon langage artistique ne soit pas encore, ne s'inscrit pas complètement dans l'esthétique française, ou en tout cas dans la relation au corps française. Et cette relation-là, qui pour moi est aussi forte et aussi visible, je trouve qu'en France, il y a encore un travail à faire sur la performance, qui devrait sortir, je souhaite, de cette espèce d'événement très conceptuel, de lecture performée, que c'est très intéressant, mais je trouve ça très français et je vois très peu d'artistes latino-américaines ou du sud du monde, voilà, de ce grand sud qui s'exprime beaucoup avec la performance. Et ben ça, on le voit très peu. Donc par rapport à mon parcours d'artiste, oui, je sens que il n'y a pas encore la compréhension, ou en tout cas le dialogue avec d'autres artistes performeuses comme moi. C'est, voilà, c'est pas très développé en France. En Italie, beaucoup plus, tiens. On voit beaucoup plus ce genre de langage de la performance, oui.
Et pour revenir justement à ton activité d'artiste, elle ne se réduit pas justement seulement à la performance ou au travail plasticien. Mais tu parlais tout à l'heure d'une association, tu es très engagée sur le plan social et tu t'es même lancée dans une thèse en anthropologie et en sociologie. Mais on se demande comment tu peux trouver le temps et l'énergie de faire tout ça.
Alors, déjà, je prends tout mon temps pour faire ma thèse, donc j'ai le temps parce que je le prends. Quand on n'a pas le temps, il faut le prendre, hein? Donc c'est tout. Donc il ne faut pas courir après, il faut prendre le temps et le diluer et le prolonger. Donc la thèse, je suis à ma 8e ou 9e année, j'en sais rien, et en tout cas je suis à la fin. Mais pour moi, tout ce que j'ai fait, que ce soit l'engagement social, la création de cette association au centre de mon atelier, le travail pédagogique et la thèse, et d'ailleurs ma thèse c'est surtout ça. Pour moi, c'est complètement cohérent à l'artiste que je suis. Et je suis toujours dans un processus du coup participatif et un processus de création de projets. Et la thèse est un projet. Donc, tout mon travail d'artiste ne se réduit pas à la forme de l'atelier et de la conception de l'œuvre. Et comme c'est aussi éphémère mon travail, je trouve que le côté pédagogique, le côté recherche intellectuelle aussi pointue, parce que faire une thèse, c'est faire un travail précis, c'est complètement... C'est une autre forme de performance. Donc ma thèse, c'est une performance. Ce n'est pas... Il n'y a que l'école des hautes études qui aurait pu accepter ça, d'ailleurs.
Et donc, toi, ta conception de la performance, elle relève de quoi? Est-ce que c'est par rapport à toutes les performances que tu as pu voir, que tu as choisi ta propre orientation, ou est-ce que Tout à l'heure, tu parlais des rituels, de ton ambiance familiale, les origines de ta vie. Est-ce que, en fait, c'est ça, c'est une conjonction, un mélange de tout ce qui t'est arrivé et tout ce que tu as vécu, que tu veux mettre dans une démarche visuelle et permettre aux gens de comprendre une sorte de rébellion dont tu parlais tout à l'heure.
En fait, dans mon travail, la ritualité est très importante. Oui. Mais moi, j'ai plongé dans cette ritualité. Je suis née dans cette performativité et cette ritualité. Les processions, le temps dicté par le temps du rituel, qu'il soit le repas, mais aussi les grands événements ritualisés dans la Méditerranée et dans le sud de l'Europe, aussi dans les pays du sud de l'Europe et dans l'Italie du sud, parce que l'Italie du nord elle est vachement différente. Présence continue de ce temps ritualisé, c'est le quotidien, c'est la norme. Donc la ritualisation à travers la performance, c'est complètement ancré et incarné dans mon expérience. Je ne veux pas la chercher. Grâce à l'anthropologie, je peux avoir des outils pour la maîtriser, pour la comprendre, pour l'analyser et d'ailleurs dans mon travail de proposer ces rituels comme un contre-rituel. Donc c'est ça. Mon travail n'est pas fidèle au rituel que j'ai appris. C'est clair, il faudrait les connaître pour comprendre que mon travail c'est erroné de parler des rituels. Parce que justement c'est des contre-rituels. Oui. C'est quelque chose qui réécrit cette histoire imposée, cette façon de vivre correctement dans un temps familial. Moi, j'ai réécrit tout ça à travers des contre-propositions qui paraissent ritualisées, mais qui en fait sont en train d'aller contre cette histoire forte. Hein. C'est très fort, c'est très ancestral, c'est complètement ancré chez moi. Les profs, j'étais relaver la tasse quand tu es arrivée alors qu'elle était propre. Ça, c'est typique.
Exactement.
D'une femme du sud. Oui. Devant l'invité, on relève la tasse propre pour montrer qu'elle est vraiment propre. Imagine oui. Le sens de culpabilité qu'il y a derrière ce geste désespéré de supprimer la trace. Mmh.
Et dans les rituels justement ancestraux dans lesquels tu as baigné, il y a aussi un rapport avec la nature,
oui.
Avec l'animal, avec le végétal, et on le retrouve beaucoup dans tes performances.
Oui.
Il y a beaucoup de fleurs, il y a des plantes, récemment tu as fait une performance avec une poule, voilà, il y a des oiseaux.
Oui, justement parce que je viens de cette culture ritualisée, et dans ces rituels du patriarcat ancestral, la relation à la nature était omniprésente.
La base.
Voilà, c'était toute la ritualisation du quotidien était liée à la lumière, à la nuit, aux saisons, à la cyclicité de nos vies dans la relation à la nature. Ça vient de là, le rituel. Après, ça a été sacralisé, ça a été associé à l'église, dans ma culture à moi. Ça a été inséré dans un contexte de foi, de religion et d'autres. Donc, on a rajouté d'autres couches à la ritualisation du quotidien. Mais cette ritualisation du quotidien est complètement liée à la nature. Et d'ailleurs, c'est dans ces rituels du patriarcat qu'on voit aussi les abus sur la nature et sur les femmes dans les sociétés patriarcales. Et c'est pour cette raison-là que, dans mon approche écoféministe, j'ai envie de réécrire le rituel, de réécrire cette relation ancestrale à la nature, parce que celle que j'ai apprise, je la trouve quand même perverse. Donc pour moi, l'écoféminisme, ce n'est pas du tout la récupération de certains rituels, c'est la réécriture de ces rituels-là, mais le respect de la relation à la nature.
Et alors, justement, dans cette période de pandémie dont on parlait tout à l'heure, on va peut-être en sortir un jour. Quel serait ton rêve d'exposition?
Que tout change. Je n'ai pas envie de revenir au monde avant le Covid. C'était un monde de fous, la course contre le temps. C'était un monde d'événements, d'annonces sur les réseaux sociaux, d'actualité. Donc la question de « c'est quoi vos prochaines actualités ?» Je l'ai entendue 15 000 fois. Et bien, je voudrais un monde sans actualité, où on revient vraiment à la création, et qu'à la limite, on expose cette création-là, ce moment de la création, sans s'attendre à la réalisation de l'œuvre finale, mais le processus, l'idée du processus, l'idée de vider les musées, de ne pas se retrouver à nouveau au Louvre et courir d'une époque à l'autre, d'un tableau à l'autre, d'une sculpture à l'autre. J'ai l'impression d'être toujours envahie par cette production et pas d'être dans un lieu d'art. Quand je suis dans les grands musées internationaux, pas que le Louvre, le pauvre, c'est magnifique. Mais je veux dire, on a subi l'art. Et là où il y en a beaucoup, parce qu'il y a les moyens, comme en France, probablement on l'a subi encore plus. Alors que voilà, dans d'autres endroits méditerranéens, il faut la créer parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, il faudrait repartir de ce vide que le Covid a créé. Et j'aimerais vraiment que les institutions réfléchissent à ce vide-là et comment le ré-remplir, mais sans l'étouffer, voilà, sans boucher les espaces et les temps de la création et du partage de cette création. Donc, c'est utopique.
Oui, mais c'est une magnifique approche et c'est un très beau désir. Mmh. Alors, puisque notre entretien arrive à sa fin, justement, puisqu'on parlait des œuvres et tu disais que parfois il y en a trop et qu'on passe de l'une à l'autre en une seconde, si tu devais retenir une œuvre, je ne sais pas, dans tous les musées que tu as vus ou que tu as étudiés, que tu as regardé même sur Internet, quelle est l'œuvre dans l'histoire de l'art qui t'aurait marqué et qui peut-être t'a poussé à devenir artiste?
Alors, l'œuvre qui m'a poussé à devenir artiste... Non, être artiste, c'était ancré. Il n'y a pas d'œuvre
qui... Déjà à 4 ans.
Oui, donc non, je n'ai pas d'œuvres qui m'ont donné cette envie. En revanche, je suis, j'étais très inspirée lorsque j'étais jeune par à la fois la culture populaire, très populaire, la télévision italienne horrible des années 80, la télévision berlusconienne avec ses femmes en bikini. Ça me plaisait énormément, pas dans l'idée du plaisir que j'aimais, oui, mais dans l'idée de regarder ça, oui, comme un voyou, de regarder ça d'une façon, et de me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc ça m'a beaucoup inspirée pour mon travail. Et là aussi, j'essaie de me rebeller à cette culture populaire aussi vulgaire et aussi machiste italienne. Donc, ce n'est pas une œuvre d'art qui m'inspire. L'œuvre d'art, j'ai grandi entre Naples et Rome, entre Caravaggio, Bernini, les églises. L'église la plus petite in Italie a des fresques dell'École de Giotto ou quelque chose de similaire. Donc, comment on peut être inspiré par tout ça? On peut juste se sentir tellement inférieur et incapable d'arriver à faire ça che dans mon cas, moi, ça n'a pas été la découverte de l'œuvre. L'œuvre, elle était là. Je me promenais dans Rome et j'étais entourée par des œuvres sans souvent avoir la conscience de ce patrimoine, en fait, no? Tellement on a l'habitude d'être baigné dedans. Donc, ce qui m'a inspirée, encore une fois, c'était de me rebeller à cette culture populaire qui devient de plus en plus vulgaire chez nous. Jusqu'au discours populiste, etc., qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, et les réseaux sociaux, etc. Et je vois une énorme différence entre l'utilisation de ce média-là, entre l'Italie et la France quand même. Je vois beaucoup plus de culture populaire, vraiment sauvage, j'ai envie de dire, libre de s'exprimer, sans se poser le souci de qui nous lit, de qui est-ce qui nous lit, de qui est-ce qui nous regarde. Et dans les années 80, ben moi je suis née en 82, c'était comme ça, la télévision italienne, on était passé d'avoir Pasolini à la télé à avoir Berlusconi, donc le saut a été aussi, aussi fort.
Oh, ouais.
Oui, donc c'est ça qui, voilà, l'artiste que je suis aujourd'hui, et d'ailleurs dans mon travail il y a une connotation populaire, les rituels de toute façon c'est une connotation populaire. C'est aussi en opposition à cette culture populaire pop et macho qui s'est imposée à mon regard d'enfant, à mon regard d'adolescent, la télévision italienne, le cinéma italien de ces années-là, et donc le manque d'art finalement, le manque de culture et d'art dans tout ça.
Bien, merci beaucoup Romina.
Merci à toi.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.